France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Barthélémy Gaillard, Mélanie Chalandon, Gwendoline Troiano, Joséphine Reynartz et Antoinette Benoît, réalisé par Vivian Lecuivre, et à la technique ce matin, c'est Marie-Claire Oumabadi. C'est le dernier volet de notre série consacrée aux états de droit fragilisés en Europe centrale et balkanique après la Roumanie, où le candidat d'extrême droite George Simion a remporté dimanche le deuxième premier tour de la présidentielle, après la Serbie où le gouvernement fait face à une mobilisation populaire massive, après la Pologne où le premier ministre Donald Tusk tente de redonner aux institutions leur indépendance, quitte à faire preuve d'une certaine forme d'autoritarisme. Place à la Bosnie-Herzégovine ce matin, un état au bord de l'implosion avec les provocations sécessionnistes du Serbe Milorad Dodik et un haut représentant international, Christian Schmidt, qui tente de les contenir.
Article 5, très important. Le haut représentant est en charge de la mise en œuvre finale. Donc c'est moi qui ai le dernier mot.
J'ai gagné les élections ici pour la 10e fois. Et un étranger vient vous dire que cela ne suffit pas pour être légitime. Si 30 ans après la signature des accords de Dayton, la Bosnie-Herzégovine ne peut toujours pas fonctionner sans tuteur étranger, et elle n'y arrive pas, elle ne devrait même pas exister.
Dodik peut déclarer l'indépendance de la Republika Srpska autant de fois qu'il veut. Mais un pays devient indépendant lorsqu'il est reconnu par d'autres pays. Or, aucun État n'est prêt à reconnaître une Republika Srpska indépendante.
D'un côté, un État bosnien et un haut représentant international en Bosnie-Herzégovine qui invoque la légitimité des textes. D'un autre, un président de la République serbe de Bosnie, la Republika Srpska, qui invoque sa légitimité populaire. Entre Sarajevo, siège de l'État central, et Banja Luka, capitale de l'entité serbe de Bosnie, une bataille politico-juridique creuse chaque jour un peu plus le fossé laissé par la guerre que les accords de Dayton en 1995 devaient tenir à jamais éloigné. Depuis des mois, Milorad Dodik, le président de la Republika Srpska, fait voter loi après loi pour se séparer toujours un peu plus de l'État central de Bosnie. Il a fait interdire la présence de policiers ou de soldats bosniens sur son sol, décidé que les arrêts de la Cour constitutionnelle n'y seraient plus appliqués, annoncé une nouvelle constitution spécifique pour la République serbe de Bosnie avec ses propres forces de l'ordre. Celles-ci ont d'ailleurs immédiatement riposté quand le 23 avril dernier, des policiers bosniens sont venus arrêter Milorad Dodik, condamné quelques semaines plus tôt à un an de prison par la justice serbe. Échec total de cette opération de police. Cette affirmation d'une souveraineté serbe dans un pays où vivent aussi des Bosniaques et des Croates se joue aussi sur un autre sujet, celui des biens de l'État. Les forêts, les routes, les casernes, tous les biens publics censés appartenir à l'État bosnien, mais dont la République serbe de Bosnie revendique la propriété, pour ceux en tout cas qui se trouvent sur son sol. Bonjour Aline Kateu.
Bonjour Julie Gacon.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes anthropologue, documentariste, autrice d'une série documentaire qui sera bientôt diffusée sur France Culture, d'ailleurs réalisée par Yael Mandelbaum, Bosnie-Herzégovine 1995-2025, la solitude des Bosniens. C'est vrai que nous sommes 30 ans après ces accords de Dayton. Nous sommes également en ligne avec Neira Šabanović, bonjour.
Bonjour Julie Gacon.
Bienvenue à vous, vous êtes doctorante en sciences politiques à l'Université Libre de Bruxelles et merci à toutes les deux d'être avec nous, Aline Kateu, pour saisir l'importance des derniers événements en République serbe de Bosnie et ce qu'ils disent sur un temps plus long. On est obligé, comme à chaque fois, je pense, d'expliquer ou de réexpliquer le cadre constitutionnel de la Bosnie-Herzégovine, cadre hérité de ces accords de Dayton en 1995.
Oui, alors directement, ils sont hérités, ils font partie de ces accords de paix, puisque la constitution de Bosnie-Herzégovine est l'annexe 4 de ces accords de paix, c'est le volet civil de ces accords. Cette constitution, en fait, est souvent, ces accords de Dayton et cette constitution est souvent pointée du doigt quand on parle du mauvais ou du non-fonctionnement ou de la paralysie de l'État bosnien.
Faut dire qu'elle est complexe.
Elle est elle est très complexe. Cependant, moi, j'aimerais déjà commencer par nuancer un petit peu. Je pense que ces accords de Dayton et cette constitution n'étaient pas faits, en effet, pour durer. Ils ont eu le mérite d'arrêter la violence. C'est à peu près leur seul mérite. Toutefois, je pense que si ces accords de Dayton et cette constitution étaient tombés dans les mains d'acteurs politiques qui avaient souhaité réellement, à terme, avoir une vision commune pour ce pays, les accords ont provisionné tout ce qu'il faut de procédures, de lois, etc., etc. Mmh. Donc, c'est moins ces accords en eux-mêmes que ce que les acteurs locaux et internationaux en ont fait, qui rend le pays ingouvernable. Donc, très rapidement, la Bosnie-Herzégovine est divisée en deux entités. La fédération croato-musulmane et la République serbe de Bosnie, Banja Luka étant la capitale de la République serbe de Bosnie, de la Republika Srpska.
Qui n'est pas une petite enclave, hein, c'est 50% quasiment
du territoire. C'est 49% du territoire. Sarajevo est la capitale de l'État bosnien. Chaque entité a son gouvernement et l'État bosnien est évidemment doté de ses propres institutions. Et au-dessus de tout ce monde-là, puisqu'on a un État extrêmement décentralisé, il y a le haut représentant de la communauté internationale, en l'occurrence Christian Schmidt en ce moment, qui est désigné par le PIC, donc le Peace Implementation Council, le Conseil d'implémentation de la paix, qui réunit environ une cinquantaine de pays. Et qui est, donc c'est le conseil d'administration du PIC qui est chargé d'appliquer, de surveiller à la bonne application des accords et de la constitution, et qui nomme ce haut représentant, qui est finalement le personnage le plus puissant en Bosnie-Herzégovine, puisqu'il est doté des pouvoirs de bonne qui lui permettent tout, c'est-à-dire annuler une loi, promulguer une loi, destituer un ministre, en nommer un autre, invalider des décisions de la Cour de justice, etc. Ce qui fait de la Bosnie-Herzégovine de facto un semi-protectorat au sein de l'Europe.
Il a parmi ses attributions celle de veiller à ce que les biens de l'État, et là on parle vraiment de l'État bosnien, qui donc réunit cette fédération croato-bosniaque, la République serbe de Bosnie et aussi, mais là ce serait encore trop compliqué, le district de Brčko. En tout cas, ce haut représentant doit entre autres s'occuper de ces biens de l'État qui font débat aujourd'hui, qui créent une polémique entre la République serbe et l'État bosnien. Ces biens d'État, par définition, sont censés appartenir à tous. De quel bien, en l'occurrence, s'agit-il, Neira Šabanović?
Oui, bien sûr. Donc, on parle des biens qui traversent le territoire en entier. On parle des eaux, des forêts, et également des installations militaires et d'autres biens qui ont été hérités par la Bosnie-Herzégovine après l'éclatement de la Yougoslavie dans les années 1990. Donc, ces biens appartiennent à l'État, mais bien sûr, les entités peuvent en tirer usage et les utiliser. En 2022, Milorad Dodik a tenté de s'approprier en fait ces biens en faisant passer une loi sur la propriété des biens en question, qui a été annulée par Christian Schmidt. C'était par ailleurs, il me semble, la première fois qu'il faisait usage des pouvoirs de Beaune depuis sa nomination à cette position. Et juste pour avoir quelques informations concernant l'interdiction de l'appropriation et de la cession de ces biens aux entités, elle remonte à 2005, lorsque l'ancien haut représentant Paddy Ashdown avait à l'époque acté que voilà, ces biens ne pouvaient pas être cédés aux entités, qu'ils appartenaient bien à l'État central, mais que bien sûr ces entités pouvaient en faire usage pour diverses raisons.
Les accords de Dayton étaient censés avoir réglé cette question de leur propriété de ces biens de l'État, Aline Kateu.
Oui, alors, ces biens de l'État, ils représentent ce qu'il faut rappeler, comme disait Neira, mais il faut bien se rendre compte de la richesse immense qu'il représente. Neira parlait des rivières, des forêts, des routes, mais évidemment des anciennes installations militaires, etc., etc. Et tout ça, dans le contexte de la Bosnie-Herzégovine de 2025, représente des opportunités incroyables de s'enrichir encore plus, notamment avec tout ce qui est ressources naturelles, puisque le pays, enfin, c'est concrètement, ces biens de l'État sont déjà vendus en fait à des entreprises étrangères, par exemple, je pense à des centrales hydroélectriques qui sont en construction sur la Verbas, mais aussi dans la fédération. C'est-à-dire que je ne voudrais, il faut comprendre qu'en fait, en effet, le principal acteur qui remet en question la question de cette propriété des biens de l'État, c'est bien Milorad Dodik, mais que finalement, quand on regarde d'un petit peu plus près, que ce soit Christian Schmidt, quelques ambassades étrangères ou le gouvernement de la Fédération, ça arrange tout le monde de mettre la main sur ces biens de l'État hérités de la Yougoslavie.
Vous aviez par exemple, Aline Kateu, travaillé à une époque sur les ressources minières en Bosnie-Herzégovine. Il y a des ressources minières qui sont censées être considérées comme un bien de l'État et qui parfois, je pense à Rio Tinto, la multinationale en l'occurrence, qui a obtenu une concession par la Fédération de Bosnie-Herzégovine alors que le gisement se situait sur l'emplacement d'un bien d'État. Et là, ça n'a pas posé de problème ?
Alors, c'est un tout petit peu plus complexe que ça, mais en gros, ce qui se passe, donc c'est Adriatic Metals, qui est en effet une filiale de Rio Tinto, qui a obtenu une concession déjà dans des conditions totalement opaques avec le gouvernement du canton de Zenica, qui est déjà sur la liste noire des sanctions américaines en étant un des gouvernements de la fédération les plus corrompus. Donc, ça pose déjà un problème. Mais à l'époque, l'ambassade britannique avait jugé que ça n'en était pas un. C'est là aussi où on voit bien que les ambassades font fi hein, des lois locales et des questions de corruption quand c'est dans leur intérêt. Les concessions étaient attribuées et puis il a fallu déforester pour avoir accès à la mine. Et ça, c'était sur un parc national. Et voilà. Donc tout ça a été annulé par la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine, ce qui montre aussi au passage qu'il y a encore des institutions qui font leur travail et des gens à l'intérieur de ces institutions qui travaillent au respect de la constitution et des lois bosniennes. Ce en quoi, le lendemain, Christian Schmidt a annulé la décision de la Cour constitutionnelle en arguant que cette concession servait l'intérêt général. Ça, c'est le grand argument pour pouvoir utiliser les biens de l'État. Dans la foulée, le gouvernement de la Fédération a redonné en fait un droit de déforestation. Donc en fait, si vous voulez, certes Dodik, mais en fait derrière, par exemple autour de cette histoire des biens sur la qui sont dans la fédération, ça c'est un cas. Mais on a des hectares et des hectares de panneaux photovoltaïques en Herzégovine qui ont été construits sur des biens de l'État. On a et c'est absolument partout.
Et c'est un enjeu, une bataille, Nahira Shabanovitch, que Milorad Dodik met souvent en mots ou en scène. Cette question des biens de l'État, ça prend beaucoup de place dans ses discours.
Oui, effectivement, ça prend beaucoup de place déjà dans son discours qui est dirigé pour la population. On le remarque en regardant la télévision, en suivant les médias. Je peux prendre peut-être comme exemple un des exemples les plus intéressants que j'ai suivi personnellement en étant présente sur le terrain lors de la célébration du 9 janvier, qui est la fête dite de l'entité de la République serbe de Bosnie, où cette question des eaux, des forêts, des rivières, des territoires de l'ARS qui appartiennent tiendrait de facto à la République serbe de Bosnie, à ces territoires, ces rivières et ces hectares pour lesquels l'armée de la République serbe dans les années 1990 a combattu pour les obtenir. Donc voilà, déjà d'un point de vue du discours et de la manière dont il présente ça au public, c'est déjà une chose. Mais d'un autre côté, ça pose question sur les prétentions qu'il a derrière, et on va en parler aujourd'hui de ses prétentions sécessionnistes, car pour lui, déjà, comme disait Aline Kateu, obtenir en fait ces territoires, c'est une grande entrée d'argent, avec tous les projets qui peuvent être construits sur ces biens de l'État, mais de l'autre côté, c'est un grand problème, parce que si la République serbe de Bosnie parvient à mettre la main sur ces biens, quelle est la prochaine étape ? Car à partir du moment où ces biens appartiendraient à l'entité, elle pourrait avancer dans ce projet sécessionniste.
Donc une occasion nouvelle pour Milorad Dodik de prononcer ses discours sécessionnistes, la question de la souveraineté de la République serbe en Bosnie-Herzégovine, de ses biens qui seraient spoliés par l'État bosnien et par ce haut représentant international Christian Schmidt, qui d'un côté, pour la Bosnie-Herzégovine, a autorisé la vente d'une concession à une société minière filiale de Rio Tinto, et pour la Serbie, se montre très pointilleux. Il faut dire que la République serbe de Bosnie est allée beaucoup plus loin dans ses provocations. En décembre 2022, la Republika Srpska a revendiqué sa souveraineté sur les biens d'État qui se trouvent sur son territoire. Et là, Christian Schmidt dispose de pouvoirs discrétionnaires. Il l'a fait annuler aussitôt.
Je viens de rendre une décision suspendant la loi de la République serbe de Bosnie sur les biens immobiliers revendiqués par l'autorité. J'ai suspendu cette loi en m'appuyant sur une analyse de la Cour constitutionnelle et dans le but d'éviter un chaos juridique préjudiciable pour les citoyens de Bosnie et pour les investisseurs potentiels.
Christian Schmidt, donc, qui affirmait la souveraineté de l'État central sur les biens d'État, son rôle à lui, c'est d'empêcher le pays de glisser de nouveau vers la guerre. C'est pas la première fois qu'il fait le coup de surprendre tout le monde. Et je rappelle, Aline Kateu, ce que vous avez dit juste avant, le fait qu'il décide, sans qu'on sache vraiment pourquoi, d'autoriser cette concession à Rio Tinto sur le territoire de la Fédération de Bosnie, Bosnio-Croate. C'est pas la première fois qu'il fait le coup de surprendre tout le monde. Ce haut représentant international qui chapeaute, en fait, l'administration de l'État central de Bosnie-Herzégovine. Rappelez-nous d'abord comment il est arrivé là, pourquoi c'est un Allemand qui a pris ce poste.
C'est le dernier cadeau d'Angela Merkel avant son départ. Et depuis le début de son mandat, c'est un haut représentant qui est particulièrement problématique. Puisque je pense qu'il ne comprend pas où il est, ni quel est réellement son poste. Il agit de façon assez indépendante, y compris par rapport au Peace Implementation Council, qui normalement est une sorte de c'est un peu son patron, c'est un peu son conseil d'administration. Il faut dire que les pays membres du conseil d'administration, en l'occurrence, sont aussi assez passifs et tardent vraiment à le remettre dans le droit chemin. Christian Schmidt est un des principaux, je dirais presque un des principaux acteurs politiques, a aussi menacé la souveraineté de l'État de Bosnie-Herzégovine et a enfreint la Constitution. Si on se souvient, par exemple, de la réforme électorale qu'il avait promulguée en octobre 2022, le soir du scrutin des élections générales.
On était en plein dépouillement, il arrive et il décrète une réforme électorale alors que le vote a eu lieu et qu'on est en plein dépouillement. Je me souviens qu'Aline Kateu, vous aviez commenté ça en direct, quasiment en direct dans les enjeux internationaux le lendemain matin, ouais, sur France Culture.
Et que, en fait, si vous voulez, et en plus pour promulguer une réforme électorale qui est inconstitutionnelle et qui est de toute façon déjà invalidée par la Cour européenne des droits de l'homme. Donc si vous voulez, Christian Schmidt, on ne comprend pas, il a déjà fait énormément de dommages à l'institution qu'est l'OHR, et il discrédite constamment ce que l'OHR pourrait éventuellement amener de positif à ce pays en enfreignant lui-même les lois et la Constitution. Donc c'est là aussi le cœur du projet, du problème, c'est-à-dire que il est devenu pratiquement impossible de le défendre et de défendre l'institution qu'il est censé représenter.
Et d'ailleurs, cette réforme électorale promulguée en octobre 2022 en pleine soirée électorale avait in fine avantagé des partis croates, les Croates de Bosnie, dont on dit qu'il est proche. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il serait proche des Croates de Bosnie et qu'est-ce que ça implique dans les décisions qu'il prend ?
Alors, Christian Schmidt déjà était connu avant qu'il soit nommé, je pense qu'il était encore ministre de l'Agriculture ou quelque chose comme ça, quand il avait été décoré d'un ordre croate de Ante Starčević, qui était un bon fasciste de la Seconde Guerre mondiale, il faut le dire.
De l'ordre des Oustachis.
Donc quand il a été nommé, d'ailleurs, il a été tout de suite interpellé par l'opinion publique bosnienne qui lui a demandé, mais est-ce que vous allez rendre votre ordre? Et il a dit non, je garde ma médaille. Et il est ostensiblement, ils sont dans le groupe, même groupe parlementaire, dans le groupe EPP au Parlement, donc très proche du Conseil démocratique croate de Dragan Čović. Et en fait, il le montre en permanence, mais il ne s'en cache pas. Et cette histoire de réforme électorale qui a vraiment livré les clés de la fédération à Dragan Čović et la République serbe à Milorad Dodik en entérinant vite fait les résultats des élections dont on sait qu'elles ont été très largement fraudées en 2022. Parce que je pense que ce sont clairement des affinités politiques, un projet politique, un projet social, un projet de pays qui lui conviennent et qui
Oui, pardon. Nera Šabanović, sur ce haut représentant international et son rôle en Bosnie-Herzégovine, c'est la première personne qui occupe ce genre de poste sans avoir été validée, à ma connaissance, par l'ensemble des groupes ethniques. Je crois qu'on parle de groupes ethniques en Bosnie-Herzégovine. Je ne sais pas si c'est le cas et si vous allez me contredire. En tout cas, ces groupes qui composent la Bosnie.
On parle des peuples constitutifs. Du pays. On ne parle pas de ces notions de groupe ethnique au sens juridique même et au sens de la Constitution. D'abord, il n'a pas été reconnu par les Serbes, mais surtout, ce qui est important de mentionner, c'est que lorsqu'il a été nommé à cette position, il n'a pas été accepté par la Russie et la Chine, ce qui était aussi déjà problématique, car il n'a pas été nommé à cette position avec un consensus de la part de toutes les parties au sein du comité qui se charge de sa nomination en Bosnie. Donc ça, c'est déjà le premier point problématique concernant Christian Schmidt, mais surtout ce qui permet aujourd'hui à Milorad Dodik, qui est également à son clan nationaliste serbe au sein de l'ARS, de délégitimer absolument toute prise de position et toute prise de décision qui lui incombe.
Voilà, un des seuls États au monde où un seul détenteur étranger du pouvoir exécutif décide des règles qui régissent le quotidien des Bosniens, donc de tous les habitants de la Bosnie-Herzégovine. Voilà de quoi nourrir les rhétoriques nationalistes de Milorad Dodik.
Les musulmans de Bosnie tentent de maintenir le système tant bien que mal. Pour ça, ils ont choisi un Allemand sans aucun mandat. Ils ont pris des décisions et sur cette base, les musulmans, les juges et les gouvernements nous accusent de vouloir la guerre, nous les Serbes, sans aucune preuve. Et comme ils n'acceptent pas que l'on ne soit pas d'accord, ils nous accolent toutes les étiquettes. Mais je pense qu'à la fin, c'est moi qui gagnerai cette guerre.
On ne veut pas la guerre, mais à la fin, c'est moi qui vais la gagner. La guerre, même si on entend qu'il parle davantage d'une guerre symbolique, Milorad Dodik dit qu'il n'y a pas de preuve de ce que les Serbes de Bosnie veulent la guerre à l'INKATE. Est-ce qu'il espère pouvoir déclarer la souveraineté de Republika Srpska sur le reste de la Bosnie-Herzégovine sans que ça ne déclenche de guerre?
Mais de facto, de toute façon, toutes les lois qu'il fallait promulguer pour la sécession sont déjà en place. Quand on cesse de reconnaître l'autorité de la Cour constitutionnelle, quand on cesse de reconnaître l'autorité du haut représentant, quand on cesse de reconnaître l'autorité de la police, de l'armée, enfin, je veux dire, concrètement, de facto, la sécession est là. C'est simplement parce que, c'est ce que je dis toujours, mais c'est parce que ça ne ressemble pas à une sécession qu'on pense toujours que la sécession est à venir.
Vous voulez dire que ça ne ressemble pas parce qu'on n'a pas usé des armes.
Parce qu'on a une image en fait de la sécession qui devrait être violente, radicale, etc. Mais de fait, administrativement, la sécession est déjà là. Par contre, il n'a pas renoncé à l'argent de l'État central.
Donc c'est l'État central qui verse beaucoup de l'argent à l'administration.
Il parle beaucoup, mais en fait, Il poursuit les buts qui étaient déjà fixés il y a 30 ans par ses oncles, par ses prédécesseurs ethno-nationalistes serbes. Il a eu mille fois l'occasion de déclarer la sécession et dans des conditions qui lui auraient été beaucoup plus favorables. Il faut quand même comprendre que là, et je parle sous le contrôle de Neira qui connaît mieux la République serbe que moi, l'entité est au bord de la banqueroute. Vučić est un peu absent en ce moment parce qu'il a aussi lui-même ses problèmes à régler dans son propre pays. Vladimir Poutine ne semble pas non plus très actif en ce moment. Et il a fallu quand même à Milorad Dodik la présence de soldats de l'armée serbe quand la SIPA est venue pour l'arrêter le 23 avril.
La SIPA, la police bosnienne.
La police bosnienne. On a vu très vite dans la presse bosnienne apparaître ces photos qui montraient qu'en fait, sa garde rapprochée, donc les hommes armés, cagoulés en uniforme, portaient les insignes de l'armée de Serbie, pas des hommes locaux. Et ça veut dire aussi beaucoup. Quand Milorad Dodik dit qu'il va faire quitter, tous les Serbes vont quitter les institutions, ce dont il a menacé, quand il dit qu'il va faire des manifestations le long de la ligne qui sépare les entités, il n'y a personne. Il n'y a absolument personne. Il n'a pas de soutien au sein du service public.
Donc il capitalise entre guillemets sur ces discours nationalistes qui lui donnent, pense-t-il, une légitimité auprès des Serbes de Bosnie-Herzégovine. Il faut rappeler tous les actes séditieux, les offensives législatives, en tout cas les plus récentes ou les plus récentes qui ont eu lieu ces derniers mois. En juin 2023, cette loi qu'il fait voter qui enlève toute valeur aux lois de l'État central sur le territoire de la République serbe. En mars dernier, Milorad Dodik réitère avec une loi qui interdit à la justice et à la police centrale de Bosnie d'exercer sur les territoires de Republika Srpska, ce qui conduit la justice bosnienne à le condamner en février à un an de prison et à une interdiction politique de 6 ans. Et la Cour d'État, dont le siège est à Sarajevo, a lancé un mandat d'arrêt national contre lui en mars, avec cette scène sidérante, Neira Šabanović, que Aline Kateu a commencé à raconter, cette tentative échouée de la police bosnienne d'arrêter Milorad Dodik le 23 avril. Ça s'est passé où précisément? Pourquoi cette opération a-t-elle échoué? Est-ce qu'on sait un petit peu dans le détail ce qui s'est passé? Parce qu'il y en a fait des photos, mais la scène n'a pas été, à ma connaissance, filmée.
Alors oui, bien sûr, c'est important, je pense, de reparler de cet événement-là pour symboliser et illustrer ce côté symbolique de cette sécession qui est déjà quasi de facto présente, comme Aline Kateu le mentionnait avant. Ce qui s'est passé, c'était que Milorad Dodik se trouvait au sein de l'administration du gouvernement de la République serbe de Bosnie à Sarajevo-Est. Sarajevo-Est, anciennement appelée Lukavica, est une petite ville près de la capitale de Sarajevo, qui est sur le territoire de la République serbe de Bosnie, où ils ont donc un des sièges du gouvernement de la République serbe à proximité de la capitale, voilà, pour des raisons pratiques, mais également politiques. Il s'y trouvait, la SIPA avait envoyé ses forces de police pour l'arrêter, selon le mandat d'arrêt qui a été émis le 17 mars, si je ne dis pas de bêtises, à son encontre, mais également à l'encontre de Nenad Stevanović, le président de l'Assemblée nationale de la République serbe, et aussi Radovan Višković, le premier ministre de la République serbe. Milorad Dodik ne voulait pas quitter le bâtiment, il s'y est caché et il était protégé par, en premier lieu, les forces de police de l'entité serbe, mais également, comme vient de mentionner Aline Kateu, des forces spéciales. On parle de forces antiterroristes qui portaient les insignes du drapeau serbe. Donc juste pour faire la différence, on a le drapeau de l'entité de la République serbe de Bosnie, qui est la Trobojka, les trois, le rouge, bleu et blanc serbe. Mais en Serbie, on a le blason de la Serbie en plus sur ce drapeau, qui fait la différence. Et on parle de ce blason-là qui était sur les uniformes, en fait, de ces personnes qui étaient masquées, dont on ne connaît pas l'identité. Une enquête a été lancée il y a quelques jours pour comprendre de qui il s'agissait, et ça porte directement, ça soulève la question de qu'est-ce que vient faire la Serbie dans cet incident. La Serbie s'est prononcée, le Premier ministre Ivica Dačić a dit qu'il n'avait aucun lien avec cela et qu'il s'agit juste d'un symbole serbe général et qu'il n'avait aucun rapport avec cela. Mais comme l'a précisé Aline Kateu, je pense qu'il serait absurde de croire que Aleksandar Vučić n'a aucun lien avec cela, car on le sait très bien qu'il apporte un soutien à Dodik depuis déjà plusieurs années et qu'il le fera toujours.
Donc se rattacher à la Serbie, ça fait partie des projets tacites ou pas d'ailleurs de Milorad Dodik, de la République serbe de Bosnie. Aline Kateu, ça dit quelque chose déjà, ces unités spéciales serbes à quelques centaines de mètres du palais présidentiel, et le fait aussi que Milorad Dodik continue à être libre de ses mouvements alors qu'il est sous mandat d'arrêt national.
Oui, alors c'est toute là on a vraiment l'image de une idée de à quel point la souveraineté du pays est complètement inexistante, c'est-à-dire que les forces spéciales vont et viennent, de toute façon c'est la police serbe de République serbe qui contrôle la frontière, parce qu'il y a aussi tout ça, il y a la question de du contrôle des postes frontières avec la Serbie, donc qui rentre qui sort, personne ne sait exactement. Mais vous savez, c'est également le cas par exemple dans la région d'Herzégovine, en région méridionale, où on a un premier ministre croate Andrei Plenković, qui vient, qui rentre et qui sort sans jamais suivre de protocole, qui va rencontrer Dragan Čović à Mostar sans avoir d'invitation officielle. Enfin, je veux dire, c'est encore une fois, ça n'est pas que le fait, en fait, de la République serbe. J'insiste toujours là-dessus parce que le processus sécessionniste croate, je pense pas qu'on puisse exactement l'appeler comme ça, mais les actes anticonstitutionnels et la fin de la souveraineté de la Bosnie-Herzégovine sont aussi abîmés par ces acteurs-là, et il faut comprendre qu'ils marchent de concert. C'est-à-dire que ce ne sont pas deux projets antagonistes, ce sont vraiment deux projets concertés pour mettre fin, en fait, à cet État.
Donc au service vraiment d'un projet nationaliste. De toute façon, donc on entend bien Milorad Dodik qui, malgré la décision de justice prononcée contre lui le 26 janvier, reste libre de ses mouvements. Une mise en scène aussi de l'irrespect de l'autorité policière bosnienne et judiciaire également, qui tend à flatter un certain sentiment nationaliste auprès des électeurs.
Je me sens persécuté par les musulmans bosniaques, je me sens persécuté par les tentacules globalistes de Bruxelles, par les tentacules de l'administration américaine. Je me sens persécuté depuis des années, même avant la procédure judiciaire à mon encontre, lancée par un tribunal non conforme à la constitution de Bosnie-Herzégovine, si on peut appeler cette institution un tribunal. Il a été créé par des étrangers, pour leurs intérêts.
Quand est-ce qu'il a pris ce tournant nationaliste, Milorad Dodik, lui qui se présentait comme un social-démocrate dans les années 2000? Peut-être d'abord Aline Kateu, un mot là-dessus.
En 2006.
C'est précisément
c'est en 2006. Vraiment en 2006, c'est-à-dire que quand il était, en effet, le SNSD et Milorad Dodik étaient, il faut se remettre dans le début des années 2000, a été un formidable espoir pour la Bosnie-Herzégovine. Quand il est apparu sur la scène politique, moi je vivais déjà en Bosnie-Herzégovine à ce moment-là, tout le monde s'est dit, mais enfin, un politicien, et en plus un politicien serbe, donc aussi très symboliquement, on pensait que si le changement venait de la République serbe, il aurait plus de chances d'arriver. Milorad Dodik a reconnu le génocide de Srebrenica. Milorad Dodik avait dit clairement que peut-être il serait temps que le Parlement de la République serbe et le Parlement de la Fédération discutent d'une possible réunification du pays. Ça, c'était aux alentours de 2003-2004. Et après défaite électorale sur défaite électorale, Milorad Dodik s'est dit qu'en fait, ça paye plus d'être un ethno-nationaliste. C'est meilleur pour les affaires aussi, parce qu'il faut quand même aussi comprendre que Milorad Dodik, s'il n'a pas de sang directement sur les mains de la guerre, du fait qu'il ne se soit pas battu, est un profiteur de guerre et amassé des milliards. On ne parle pas de petites fortunes avec des actions de corruption. Et Milorad Dodik s'est dit, en fait, ça payera plus d'être sécessionniste et ethno-nationaliste pour ma carrière politique. En gros, c'est ça le virage politique.
Je ne sais pas ce qu'il a fait de ce qu'on va appeler un trésor de guerre, de ces milliards, puisque lui-même est en situation délicate financièrement. Une banque lui a refusé récemment l'accès à ses comptes. Il a d'ailleurs tout de suite dit que cette banque, c'était une ennemie du peuple. Là-dessus, Neira Šabanović, à la fois sur l'espoir qu'a pu représenter Milorad Dodik à l'époque, parce que je n'ai pas eu le temps de dire jusqu'à présent que vous avez vous-même des origines de Republika Srpska. Je crois que vous y êtes né, que vous y avez un petit peu grandi, pas très longtemps, mais que vous y avez encore de la famille. L'espoir qu'il a représenté et la façon dont il a conduit progressivement la Republika Srpska vers une forme de banqueroute, le mot employé tout à l'heure par Aline Kateu.
Alors, je ne suis pas née là-bas.
Vous n'y êtes pas née, voilà, c'est son
beau-parent. Originaire de Bosnie-Herzégovine, et en l'occurrence de ville qui aujourd'hui se retrouve sur le territoire de la République serbe de Bosnie. Mais en tout cas, en ce qui concerne Milorad Dodik, ce virage en 2006 était essentiellement lié à la prise d'indépendance du Monténégro de la Serbie. Je pense que c'est important également de mentionner ça, de dire que, ah ben voilà, si le Monténégro peut prendre son indépendance de la Serbie, alors nous aussi, on peut prendre notre indépendance de la Bosnie. Et effectivement, ce discours sécessionniste, malheureusement, fonctionne très très bien dans une société où la guerre n'est pas terminée d'un point de vue politique et symbolique. Et je pense que ça, c'est important de s'en rendre compte, surtout des dilemmes auxquels font face la population. On parle de crise économique catastrophique depuis déjà des décennies. Je veux dire, les gens vivent, les gens survivent, mais la situation économique est extrêmement mauvaise, avec des retraites qui sont extrêmement basses en République serbe, plus basses qu'en Fédération de Bosnie-Herzégovine. Et donc au final, parler d'aspects symboliques, parler de sécession, parler de nationalisme, éveiller ce sentiment national est un des outils les plus simples pour détourner l'attention du public des réels problèmes auxquels font face l'entité, mais également le pays en entier.
Surtout que c'est contradictoire. En l'occurrence, Neira Shabanovitch, une entité très lourdement endettée, mais qui voudrait faire sécession, donc flatter le sentiment nationaliste pour faire quoi au juste, pour quel projet? Est-ce que Milorad Dodik a vraiment l'intention de voir la Republika Srpska faire sécession du reste de la Bosnie-Herzégovine s'il sait qu'elle n'en a pas les moyens?
Alors moi je pense que dans tous les cas, selon mon analyse, et je pense qu'Alinka Te l'a également mentionné un peu plus tôt, s'il voulait faire sécession, la sécession jusqu'au bout, si je peux dire, il l'aurait déjà fait. Je pense que c'est faisable. Mais dans les faits, il ne faut pas oublier quel est l'intérêt d'un parti ethno-nationaliste dans ce pays. Un parti ethno-nationaliste qui a fait de cette rhétorique sécessionniste sa base, la base et les fondements de ce parti, se retrouver également face à une sécession qui aboutira. Ça, c'est un peu marqué également la fin de sa carrière politique. En se présentant comme le défenseur ultime des Serbes du pays, à partir du moment où il y a sécession et à partir du moment où voilà l'indépendance est proclamée, qu'est-ce qui en s'ensuit? D'un point de vue financier et économique, la République serbe de Bosnie est incapable de subvenir à ses besoins économiques de façon isolée, comme l'a mentionné plutôt Alinka Te. Ils reçoivent des financements de la part de l'État central, mais en plus de cela, alors oui, l'entité est endettée. Ce n'est pas non plus catastrophique quand on compare à d'autres pays européens. On parle, il me semble qu'en 2022, les chiffres étaient pour un budget de 2 milliards d'euros pour l'entité serbe, ils étaient endettés à 50% du PIB, ce qui n'est pas catastrophique. On a des situations similaires, mais le problème de l'entité, c'est qu'elle n'a pas le soutien politique déjà de l'étranger et de potentiels investisseurs étrangers. Et s'ils se retrouvent face à une sécession, qui voudra investir et reconnaître même cette entité d'un point de vue international? Donc c'est ça en fait le plus gros problème pour Dodik, et je pense qu'il en est pleinement conscient et qu'il ne fait que retarder cette sécession indéfiniment.
Alinka Te.
Oui, je voulais juste très rapidement rebondir sur ce que disait Neira Shabanovitch sur la question du discours ethno-nationaliste. La même chose que ce soit pour Dodik ou pour Čović. Récemment, je relisais des minutes de procès, en fait, dans des archives de la Haye, pour des crimes commis en Herzégovine pendant la guerre, peu importe, mais je relisais des discours politiques de 1993, donc prononcés par différents hommes politiques en Bosnie-Herzégovine, et notamment nationalistes serbes et nationalistes croates. C'est rigoureusement les mêmes mots, rigoureusement les mêmes arguments, rigoureusement le même vocabulaire. Rien n'a changé depuis 30 ans. Et je pense qu'il faut comprendre qu'on est vraiment dans une perspective de processus qui traverse des crises et non pas juste comme une accumulation de crises ou de soubresauts. Mais c'était absolument saisissant de lire ces discours et de ne plus savoir si je lisais quelque chose d'il y a 30 ans ou si je lisais quelque chose de 2025.
Et les Bosniens serbes de l'époque, l'ancien parti par exemple de Radovan Karadzic, qui était président de la Republika Srpska lors du génocide de Srebrenica notamment, qu'est-ce qu'ils deviennent aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu un renouvellement générationnel? Est-ce que Milorad Dodik a des contrepoints aussi en interne?
Alors non,
des contre-pouvoirs.
Enfin, là encore, je parle sous le contrôle de Neira, qui revient du terrain plus récemment que moi et qui se concentre sur la République serbe, ce qui n'est pas totalement mon cas. Mais je pense que vous soulevez un point qui est extrêmement important. C'est-à-dire qu'on entend beaucoup « l'opposition ». Oui, enfin, faut voir de quoi elle est composée, cette opposition. On parle en effet de l'ancien parti de Karadzic, d'autres gens qui soutiennent la sécession, qui ne reconnaissent pas le génocide. Je pense qu'il faut comprendre cette opposition plutôt en termes d'opportunités. C'est-à-dire que je pense qu'il y a aussi tout un tas d'acteurs politiques qui sentent le vent tourner, qui n'ont pas envie d'être arrêtés, qui n'ont pas envie d'être inquiétés, qui n'ont pas envie d'avoir trop de problèmes et de se salir les mains plus que ce qu'ils l'ont déjà fait. Et que du coup, on assiste par exemple récemment à cette unité là de l'opposition, cette initiative pour prendre contact avec les partis dans la fédération et remettre les institutions au travail, etc. Mais je pense qu'il faut être très clair sur le fait que cette opposition n'est, à mon sens, pas une opposition démocratique, disons.
En tout cas, elle est aussi nationaliste.
Elle est aussi nationaliste. Après, à un moment donné, il va falloir discuter avec quelqu'un.
Un petit mot, Neira Shabanovic, à ce sujet, puisqu'en effet, vous y êtes retournée récemment.
Oui.
Oui.
Oui, bien sûr. Alors, comme disait Aline Kato, il n'y a pas d'opposition idéologique en tant que telle en République serbe de Bosnie. Alors, quand on regarde au niveau de la Bosnie en général, en fédération, on retrouve quelques petits partis qui sont d'une forme d'opposition idéologique, mais on reste toujours dans ce clivage d'opposition entre partis nationalistes et partis dits civiques qui font la promotion d'un État dénué d'entité, d'un État où une réconciliation aurait lieu, et d'un État également dans lequel une réforme constitutionnelle aurait finalement lieu, car réforme constitutionnelle, il n'y a jamais eu lieu depuis l'introduction de la Constitution en 1995. Alors, pour revenir sur ces questions d'opposition idéologique, c'est très intéressant
mots, parce
qu'effectivement... les partis d'opposition, oui, bien sûr, les partis d'opposition se sont maintenant ralliés à la Troïka, à cette coalition au niveau du Parlement de la Bosnie-Herzégovine, le Parlement central. Mais ça reste complètement dérisoire par rapport à la mainmise que Milorad Dodik a mis actuellement sur la République serbe de Bosnie.
Vous écoutez Culture Monde, c'est le dernier épisode de notre série sur l'état de droit en Europe centrale et balkanique. Aujourd'hui, en Republika Srpska, l'entité serbe de la Bosnie-Herzégovine, dont le président Milorad Dodik revendique sa légitimité populaire pour faire progressivement sécession de l'état central bosnien, en invoquant notamment des ingérences étrangères qui, du reste, existent. Lui se tourne vers Viktor Orban. En mars dernier, le média d'investigation V-Square révélait que 70 membres des forces spéciales hongroises se trouvaient en République serbe de Bosnie, probablement pour soustraire Milorad Dodik à la justice bosnienne.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Quels sont les liens entre Milorad Dodik et Viktor Orban et de quelle nature est l'influence de la Hongrie en Bosnie ? Bonjour Joël Le Pavous.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste indépendant, correspondant de plusieurs médias depuis Budapest en Hongrie. Alors quand ce média V-Square a révélé ou avancé, je ne sais pas quelle est la nature des preuves qui sont avancées, mais que 70 membres des forces spéciales hongroises ont été envoyés à Banja Luka, la capitale de la République serbe de Serbie, quelle a été la réaction de la Hongrie où vous êtes ?
Alors la réaction, j'allais dire, de l'opinion hongroise n'était pas vraiment surprise, puisqu'on sait les liens qui unissent Viktor Orban et Milorad Dodik. Quant au gouvernement en tant que tel, il expliquait que ses forces spéciales s'entraînaient en fait en République serbe de Bosnie et n'avaient aucunement l'intention d'extraire Milorad Dodik d'une éventuelle condamnation par la justice.
Officiellement, ce sont 70 policiers du centre antiterroriste hongrois qui étaient là pour un exercice conjoint. Et l'État bosnien, lui, qu'a-t-il il a quand même répliqué, il a pris vraiment au sérieux ces allégations.
Oui, il a réclamé en fait le départ immédiat des forces hongroises présentes dans le cadre de l'EUFOR, donc en Bosnie.
L'EUFOR, c'est cette force qui est censée garantir le maintien de la paix en Bosnie.
Oui, absolument. Et donc il y a des soldats hongrois dans cette force de maintien de la paix. Et donc la Bosnie, enfin, Sarajevo a réclamé leur départ. Faut savoir quand même qu'Orban joue sur deux tableaux entre la Bosnie et la Republika Srpska, puisque d'une part il prône l'adhésion rapide de la Bosnie, donc Sarajevo, à l'Union européenne, tout comme le reste des Balkans occidentaux. Et d'un autre côté, il encourage les visées sécessionnistes de Milorad Dodik, qui en fait déstabiliserait, on le sait, d'autant plus les Balkans.
Quel intérêt peut y trouver Viktor Orban ? Est-ce qu'il souhaite déstabiliser la région ? En tout cas, est-ce que c'est l'intention qu'on lui prête ? Est-ce qu'il y a des intérêts beaucoup plus pragmatiques, puisque on a rapidement dit tout à l'heure que la Hongrie investissait en Republika Srpska, qu'elle prête de l'argent aussi à l'entité serbe de Bosnie.
Oui, il y a eu même deux prêts donc à la Republika Srpska qui ont été accordés. C'est un intérêt qui est gagnant-gagnant et pour Orban et pour Dodik. Dodik, lui, peut affirmer qu'il a un allié au sein de l'Union européenne, tandis que Orban, le fait de cajoler la Republika Srpska, ça lui permet de continuer à tisser sa toile dans les Balkans comme il le fait déjà ailleurs. Donc en fait, tout l'intérêt pour Orban, c'est à la fois de cultiver cette amitié avec Dodik, d'étendre dans sa toile dans les Balkans, et aussi de montrer éventuellement des gages à Aleksandar Vučić, donc le président de la Serbie, qui certes n'est pas totalement enchanté par les visées de Dodik, mais qui pour autant n'est pas forcément opposé à ce que fait Orban dans les Balkans.
La Hongrie a par ailleurs régulièrement dans le passé récent accueilli des dirigeants politiques des Balkans ou d'Europe centrale menacés dans leur pays. En 2018, par exemple, l'ancien président macédonien Nikola Gruevski, accusé de corruption, il avait fallu l'exfiltrer. Enfin, ça se passe comme ça ou la personne y va de façon un petit peu plus...
Les conditions de l'extraction de Nikola Gruevski étaient vraiment rocambolesques. Enfin, ce qui était dit par les médias d'investigation hongrois, c'est que concrètement, il y a eu un convoi qui a permis à Nikola Gruevski de gagner par la Hongrie par des chemins détournés. Et depuis, donc, il bénéficie d'un sort de statut de réfugié politique à Budapest. Et ça montre aussi le soutien en fait d'Orban, non seulement à Gruevski, mais aussi à son parti, le VMRO, puisque récemment, la Hongrie a accordé deux crédits de 500 millions d'euros, soit 1 milliard d'euros pour la Macédoine du Nord.
Donc c'est tout...
ça montre...
c'est toujours un peu lié. La Hongrie a aussi offert l'exil au vice-ministre de la justice polonais, M. Romanowski, poursuivi notamment pour participation à un groupe criminel organisé depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Tusk, dont on parlait hier, ou pour trucage appel d'offres, c'était en décembre dernier, il est arrivé en Hongrie, donc il y a de fortes suspicions de ce que la Hongrie voudrait aussi offrir l'asile à Milorad Dodik, qui est poursuivi par la justice bosnienne. Quels sont les liens connus entre Milorad Dodik et Viktor Orban? Ils se rencontrent souvent, c'est pour parler de quoi en général?
Alors, ils se rencontrent souvent, rien qu'en 2025, ils se sont rencontrés deux fois. En février, c'est Orban qui recevait Dodik à Budapest. En avril, c'était Dodik qui recevait Orban à Banja Luka pour le décorer de l'ordre de la Republika Srpska, décoration qui avait d'ailleurs été accordée à Vladimir Poutine, qui est un allié commun de Viktor Orban et de Milorad Dodik. On a même vu Viktor Orban partager un genre de barbecue avec Milorad Dodik dans les montagnes bosniennes. Donc, les liens en fait entre Orban et Dodik sont connus, sont importants. La Hongrie est assez prudente pour ne pas envoyer, ou en tout cas sans qu'on le sache d'officiel, au défilé militaire que Dodik organise chaque année. Pour autant, le soutien financier, économique et politique de Budapest envers Milorad Dodik est totalement assumé.
Cette fête nationale de la Republika Srpska en janvier, qui fait référence à la création de la République du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine le 9 janvier 1992 par Radovan Karadzic, qui est considéré comme un élément déclencheur de la guerre. La Republika Srpska continue à célébrer cette date-là, et en effet, ce n'est pas Viktor Orban en général qui va de lui-même, il envoie des officiels. Peut-être pour conclure, Joël Le Pavou, est-ce qu'il y a des liens historiques, culturels entre la République serbe de Bosnie et la Hongrie qui pourraient nous aider à comprendre les liens plus officiels cette fois qu'il y a entre les deux hommes?
Alors, les liens dont vous parlez ne sont pas forcément connus par l'opinion publique. En fait, il n'y a pas véritablement de lien culturel. La Hongrie n'est pas un pays balkanique. Et quand, vous savez, quand on dit à un Hongrois qu'on est éventuellement dans les Balkans ou au nord des Balkans, il va se vexer. Donc, c'est un peu compliqué de comparer Viktor, de mettre des liens culturels entre Viktor Orban et les Balkans. Mais toujours est-il que ce lien avec Dodik, en fait, c'est un des éléments d'une stratégie en fait beaucoup plus large. Elle est politique quand Orban encourage des partis frères, on va dire, comme les Serbes de Vojvodine ou comme le parti de la minorité hongroise en Roumanie. Il y a aussi des médias qui avaient été subventionnés en Slovénie, voilà, pour encourager le retour de Janez Janša. Elle est sportive aussi, cette stratégie d'influence, parce que la Hongrie de Viktor Orban finance des clubs de foot. Je pense à Bačka Topola en Serbie, je pense aussi à Osijek en Croatie, dont le patron n'est autre que l'oligarque favori du régime hongrois, Lelin Spesaloš. Donc en fait, Dodik, c'est un des artefacts de cette stratégie qui, pour le coup, pourrait très bien avoir coûté son poste au commissaire hongrois à l'élargissement, Oliver Varhelyi, puisque on sait que voilà, il était très critiqué pour son soutien envers la stratégie SSS sécessionniste de Dodik, et c'est probablement ce qui a forcé sa rétrogradation et le fait qu'il soit devenu simplement commissaire au bien-être animal à Bruxelles.
Merci beaucoup Joël Lepavous d'avoir été avec nous, journaliste indépendant pour plusieurs médias francophones à Budapest. Aline Cateux sur les liens qui existent aujourd'hui entre Milorad Dodik et la Hongrie, nonobstant le fait qu'il n'y ait en effet pas de lien culturel entre elles et la Hongrie. On n'est pas dans le cas de la Serbie où vit une minorité hongroise dans la région frontalière de Vojvodine notamment. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus politique. C'est un projet commun, c'est un projet similaire.
Oui, c'est un projet de gens d'extrême droite aussi, hein, d'un tout un milieu politique. Parce que on dit toujours, il y a ça aussi, c'est que quand on parle de l'ethnonationalisme en Bosnie-Herzégovine, on dit ethnonationaliste, mais en fait, ce sont des partis d'extrême droite concrètement. Donc on retrouve en fait tout ce réseau d'intérêts communs entre Orban et Dodik. Et puis je voudrais quand même pas qu'on oublie parler de Vladimir Poutine, parce que derrière tout ça, il y a quand même aussi le grand intérêt de Vladimir Poutine de déstabiliser tout ce qui est à l'orée en fait de l'Europe. Je m'excuse un peu de faire marche arrière par rapport à tout à l'heure. Vous me disiez peut-être une guerre, peut-être de la violence. Je pense que l'intérêt de ces gens, c'est pas une guerre. Je pense que l'intérêt de ces gens, c'est la déstabilisation. C'est-à-dire, et en Bosnie-Herzégovine, ça peut aller très vite. Parce que la guerre n'a que 30 ans. Les gens sont réactivés dans leur peur de la violence extrêmement facilement. Donc c'est très facile de paralyser ce pays. Et je pense qu'en effet, tout un tas d'acteurs... que ce soit toutes ces groupes d'influence d'extrême droite jusqu'à Poutine, que ce soit ce que je disais tout à l'heure, les chancelleries européennes qui veulent bien avoir accès aux métaux rares à bas prix, que ce soit, enfin, etc., etc., ont intérêt de toute façon aussi à ce que ça ne fonctionne pas.
Neira Chabanovic, un tout petit mot pour conclure, car on approche, ce sera le 11 juillet, on parle beaucoup des commémorations demain du 9 mai pour les 80 ans de la victoire des Alliés contre l'Allemagne nazie, organisée donc le défilé militaire à Moscou sur la place Rouge pour marquer la fin de la grande guerre patriotique et auquel assisteront tous les dirigeants dont on parle depuis à peu près le début de cette semaine, et notamment Milorad Dodik. En revanche, le 11 juillet prochain, une autre date très importante pour la Bosnie-Herzégovine, ce seront les commémorations des 30 ans du génocide de Srebrenica. Dans quelle mesure cet événement et ces commémorations seront encadrés, dans quelle mesure on en parle en Bosnie, comme d'un moment où il faudra faire très attention à ce que rien ne vienne aggraver cette rupture de l'ordre constitutionnel?
Oui, bien sûr. Alors là, cette année, on va commémorer les 30 ans du génocide de Srebrenica qui a eu donc lieu le 11 juillet 1995. J'aimerais juste rappeler que après les menaces de Dodik à la suite de sa condamnation le 26 février 2025, le centre a par ailleurs fermé ses portes pendant plusieurs jours. Il me semble que ça a duré une dizaine de jours, deux semaines, pour des raisons de sécurité. Donc ça reste toujours quelque chose de mémorial donc à Srebrenica. Ça reste toujours quelque chose de problématique. On sait que tous les ans, des commémorations en parallèle sont également organisées à Bratunac, dans la ville voisine de Srebrenica, où les victimes serbes de ce conflit sont commémorées. Merci. Pour délégitimer aussi le génocide de Srebrenica. Donc, ce sera sous surveillance policière, comme toutes les années, et ça reste dans un contexte politique de grande tension.
Génocide de Srebrenica, vous avez beaucoup étudié la mémoire de ce génocide. Aline Cateux, vous l'évoquerez très certainement dans le documentaire, la série documentaire qui sera diffusée la semaine du 26 mai sur France Culture, réalisée par Yael Mandelbaum, Bosnie-Herzégovine 1995-2025, la solitude des Bosniens. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci ainsi qu'à vous, Neira Chabanovic. Je rappelle que vous êtes doctorante en sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles. C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Et vous nous emmenez d'abord en Colombie, Catherine, à la découverte d'un couple qui apporte des livres dans des zones de guerre.
Une voiture noire parcourt deux ou trois fois par semaine les sentiers poussiéreux de la région colombienne troublée d'Arauca, dans le nord de la Colombie, raconte El País América. Au volant se trouve Alvaro González, un médiateur social de 65 ans. À ses côtés, Patricia, son épouse, une psychologue de 61 ans. Depuis plus de 15 ans maintenant, il défie la guerre et sème la paix grâce à la lecture dans ce département colombien contrôlé par des groupes armés rivaux tout près de la frontière avec le Venezuela. Arauca est considéré comme le principal bastion de l'ELN, l'armée de libération nationale, le dernier groupe de guérilla actif en Colombie, rappelle El País. Trop d'insécurité dans les villes et villages, pas assez de protection de l'État, ont d'ailleurs dénoncé hier les maires de Colombie, réunis pour leur congrès national, rapporte le journal El Heraldo. Ces maires colombiens ont d'ailleurs interpellé le président Gustavo Petro sur cette question. Alvaro et Patricia, eux, se sont rendus dans 200 villages en une quinzaine d'années d'activité, avec les livres comme sauf-conduit, même si la prudence est toujours de mise, souligne El País América. Il faut dire aussi qu'Alvaro connaît Arauca comme sa poche. Depuis sa jeunesse, lorsqu'il travaillait pour une entreprise allemande liée à l'exploitation pétrolière, avant de défendre ensuite les droits des agriculteurs colombiens. Le pétrole, loin d'apporter la prospérité, a surtout généré de la violence, estime dans les pages d'El País Alvaro. La guérilla de l'ELN s'est d'ailleurs ancrée dans sa dynamique sociale et économique. Un jour, de mars 2003, des agents de l'État se sont approchés d'Alvaro. Ils lui ont demandé de jouer les infiltrés. Le Colombien a refusé. Il a fini en prison. Et c'est derrière les barreaux qu'il dit à El País avoir découvert le pouvoir transformateur des livres, avec des œuvres comme Les Misérables de Victor Hugo. Une expérience d'émancipation par la lecture qu'Alvaro a voulu développer une fois sorti de prison sur tout le territoire d'Arauca. Et c'est ainsi qu'est né Fortule, lire à Fortul, la municipalité où Alvaro et son épouse Patricia vivent.
Et ce couple de Colombiens change des vies.
Oui, Patricia estime qu'au fil des ans, ils ont contribué à écarter des jeunes du chemin de la guérilla. Alors quand leur voiture portant le mot Fortulé sur le pare-brise arrive dans une ville ou un village, les filles et les garçons se précipitent vers eux pour demander quel livre ils transportent, raconte El País América. C'est un moment d'évasion, mais aussi une pause, un moment d'écoute, par exemple, pour Maria, 9 ans, qui se lève à 3h du matin pour traire les vaches et aider aux tâches ménagères avant d'aller en classe à 7h. Lors de débats littéraires aussi, où une centaine de jeunes Colombiens participent tous les samedis dans la ville de Fortul. Dana Tamaron a été marquée, elle, par Le Petit Prince et l'autrice Isabelle Allende. C'est là qu'est né son engagement féministe, que la jeune femme de 18 ans espère aujourd'hui prolonger dans des études de psychologie à Bogota. Elle veut ensuite donner à de nombreuses femmes de sa région les moyens de faire face à la culture patriarcale dominante.
Le Danemark convoque l'ambassadeur des États-Unis, Catherine.
Après un article du Wall Street Journal sur l'intensification de l'espionnage de la part des États-Unis au Groenland, convoité, on le sait, par Donald Trump. Les agences de renseignement américaines, CIA, NSA notamment, ont reçu pour instruction d'en savoir plus sur le mouvement indépendantiste du Groenland, d'identifier qui pourrait soutenir les ambitions de la Maison-Blanche pour exploiter les ressources de cette immense île de 56 000 habitants, territoire autonome danois. Et le fait que ce soit une priorité du renseignement américain alarme le quotidien danois Politiken. La directrice du renseignement aux États-Unis accuse le Wall Street Journal de tenter de saper le président Trump, indique le Washington Post et la BBC. Pas de démenti, donc, des informations avancées par le quotidien américain. Et cela inquiète d'autant plus le ministre danois des Affaires étrangères, rapporte la BBC. Lars Løkke Rasmussen convoque donc l'ambassadeur des États-Unis, explique le quotidien danois BT et Berlingske. Donald Trump a d'ailleurs répété dimanche à NBC News qu'il n'excluait pas de recourir à la force pour s'emparer du Groenland. Je n'exclus rien, je ne dis pas que je vais recourir à la violence, mais je ne l'exclus pas, a déclaré le président des États-Unis donc dimanche sur NBC News, soulignant l'importance stratégique du Groenland, près duquel naviguent des bateaux russes et chinois. De nouvelles routes commerciales vont s'ouvrir près du Groenland avec la fonte des calottes glaciaires polaires, précise le New York Times. Et selon l'Institut naval américain, les routes entre l'Asie et l'Europe, ou entre l'Asie et les États-Unis via la
arctiques sont environ 40% plus courtes que via les canaux de Suez ou de Panama. La question du contrôle des mers y est donc cruciale, tant pour des raisons financières que sécuritaires. Et puis, le cercle autour de Donald Trump fait miroiter le Groenland comme une boîte remplie de biscuits, ou plutôt d'or, de cuivre, de terres rares, des matières naturelles essentielles, explique CBS News, pour produire des batteries, téléphones portables, véhicules électriques et autres. Mais pour le Washington Examiner, journal conservateur, le fait que Donald Trump brandisse sans vergogne, écrit-il, la menace d'une force militaire contre un allié est à la fois absurde et immorale.
Merci Catherine Dutu.